La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Innovation et transformation managériale. De quoi parle-t-on ? Webinaire au cours duquel nous allons décrypter ensemble la façon dont s'opère l'innovation et la transformation managériale dans les territoires. Cet événement est organisé par l'interrégion Grand Est du Centre national de la fonction publique territoriale et ce débat sera également rediffusé sur Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. Alors, l'objectif de ce débat innovation et transformation managériale, c'est tout simplement de faire émerger des éléments de définition de ces concepts, d'identifier les enjeux et les moteurs qui sont sous-jacents à ces processus et bien sûr de partager des outils permettant d'en intégrer des éléments dans nos postures et dans nos pratiques. J'ai donc le plaisir de vous présenter et d'animer ce webinaire. Je m'appelle Bruno Lorenzi, je suis journaliste. Alors, pour nous éclairer sur notre sujet du jour, nous avons souhaité réunir des experts d'horizons et de disciplines différents afin qu'ils s'expriment sur le sujet. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir Nelly Margoton, philosophe d'entreprise. Bonjour Nelly.
Bonjour à tous.
Reynald Eckenbenner, formateur et coach, co-auteur de l'ouvrage « Spirale dynamique et leadership gagnant », spécialisé dans l'accompagnement à la transformation organisationnelle. Bonjour Reynald.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Jacqueline Girarda, intervenante en thérapie sociale. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à tous.
Claude Guittard, maître de conférence et doyen de la faculté de sciences économiques et gestion de Strasbourg. Bonjour et bienvenue Claude.
Bonjour à tous et bienvenue.
Et puis Marion Neukam, maître de conférence en management de l'innovation, également à la faculté de sciences économiques et gestion de Toulouse. Bonjour Marion, de Strasbourg, pardon. Bonjour Marion.
Bonjour à tout le monde.
Alors, bienvenue à toutes et à tous et merci de votre participation. Alors, je vous propose de débuter ce webinaire sous un angle plutôt philosophique avec vous, Nelly Margoton. Comment est-ce que vous pourriez définir le management de votre point de vue, s'il vous plaît ?
Alors, j'en profite pour dire que c'est la journée mondiale de la philosophie aujourd'hui. Alors, c'est pas anodin pour moi que d'intervenir. Et la philosophie du management commence effectivement à prendre un peu ses marques. Alors, le management, puisque la philosophie commence toujours par la définition, on peut retenir plusieurs acceptions selon l'origine qu'on va envisager. Alors, souvent, on prend en compte essentiellement l'origine anglo-saxonne du mot management, qui désigne surtout un ensemble de méthode qui permet d'organiser une entreprise ou un service au service de son efficacité en fait, au service des partages de responsabilités. C'est quelque chose de très très rationnel hein, quand on vraiment se cantonne à cette origine anglo-saxonne et j'ai envie de vous parler de l'origine étymologique et de l'origine italienne aussi de ce mot. Maneggiare, donc je parle pas du tout italien, mais en tout cas ça veut dire manier, manipuler, et ça vient du latin manus dare, donc manus c'est l'idée de la main, qui sous-entend grâce à cette origine latine quelque chose d'un peu moins rationnel et une place du corps qui peut-être intéressante aussi, puisque le corps va sous-entendre l'utilisation des cinq sens, mais va aussi transmettre cette idée d'incarner quelque chose. Et on parle de plus en plus de leadership, et le leadership, c'est celui aussi qui incarne tout un tas d'aspects liés au management, et notamment la question de la légitimité sur laquelle on reviendra, je pense.
Donc un mot moderne, si je comprends bien, avec une origine très ancienne, en fait.
En tout cas, si on veut bien y voir l'origine, qui peut être discutable, mais de la main, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est l'idée de manus dare, c'est confier une tâche à quelqu'un, voilà.
Alors, on va aussi tenter de définir la notion d'innovation managériale avec vous, Marion Neukam et Claude Guittard. Comment est-ce que on pourrait la qualifier, la définir, cette innovation managériale dont on parle beaucoup en ce moment ?
Alors, effectivement, on parle beaucoup de l'innovation managériale. Alors, peut-être d'abord revenir à ce qu'est l'innovation, parce que le titre, c'est bien la transformation managériale et l'innovation. Et les deux concepts sont complètement imbriqués. Donc, l'innovation, c'est bien sûr produire quelque chose de nouveau, pas forcément un nouveau produit. Hein, ça peut être une nouvelle organisation, une nouvelle façon de vendre, etc., un produit, quelque chose de nouveau, et surtout de le mettre sur le marché. L'innovation est différente de l'invention en ce sens, hein, c'est ce que nous disent des auteurs comme Schumpeter, et c'est ce qui est important, c'est l'importance de mettre sur le marché cette nouveauté. Cette innovation, elle peut être de tout ordre, encore une fois, ce n'est pas simplement une innovation de produit. Et puis comme vous le savez tous, hein, on est dans un monde où l'innovation est extrêmement importante parce que l'innovation, c'est un relais de croissance, ce qui permet de créer des choses nouvelles et donc de croître, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des gains de productivité. Donc c'est devenu extrêmement important. Mais cette innovation qui est devenue de plus en plus importante et de plus en plus forte implique beaucoup de changements et en particulier vient impacter complètement la façon de produire. Pour faire simple, et je pense que c'est le modèle qui a été extrêmement dominant, et ça fait maintenant longtemps, mais on est resté un peu dans les gènes de nos organisations, qui est le modèle taylorien. Dans le modèle taylorien, c'est très intéressant puisque dans Taylor, l'ouvrier est considéré comme étant au mieux paresseux et voleur, et au pire, j'ose même pas vous le dire. Et donc, en clair, l'innovation, tous les processus viennent uniquement par le haut. Celui qui a un rôle central, c'est l'ingénieur qui propose le one best way, une seule bonne façon de le faire. Et dans ce contexte, manager est relativement simple. En gros, l'ouvrier doit accepter ce que lui demande de faire le one best way et n'a pas à se poser de questions, on va simplifier sa tâche au maximum. Et cette version du management qui est extrêmement top-down,
Vertical,
exactement. Et complètement resté dans nos gènes parce que c'est comme ça qu'on a conçu le management pendant très longtemps. Et évidemment, ça tient complètement ses limites parce qu'on n'est pas dans le même contexte, parce que les nouvelles technologies ont évolué, et ce qui fait que ce mode de management n'est plus possible. En particulier parce que quand Taylor écrit ses articles, il a face à lui des cow-boys, hein, un alphabet, c'est vraiment ça. Et évidemment, ce n'est plus du tout la population qu'on a dans nos entreprises et on leur demande autre chose. Désormais, le one best way ne doit plus être décidé par les ingénieurs, mais bien par tous les acteurs. Et on a besoin d'impliquer les salariés des entreprises et des organisations en général dans l'innovation. Et l'innovation managériale, c'est justement cette capacité d'impliquer tout le monde, grâce en particulier aux nouvelles technologies, dans l'innovation et dans le management.
Marion Neukam, comment est-ce que vous pourriez, vous, de votre côté, définir cette notion d'innovation managériale?
Eh ben, finalement, pour le point, ce que je pourrais rajouter encore ça, donc la définition, elle a été donnée par mon collègue, qu'on peut rajouter là-dedans, c'est que l'innovation managériale, on peut la comprendre alors comme une sorte de changement dans les pratiques collaboratives entre alors un manager et ses collaborateurs. C'est exactement ce que mon collègue, il a dit. À l'époque, c'était alors un manager qui contrôle et qui donne des ordres à ses employés, qu'aujourd'hui, on est dans un changement de perception, qu'on crée des nouvelles valeurs et du coup, les employés, eux, ils ont aussi leur parole dans l'émergence des nouvelles idées, dans l'innovation, dans l'entreprise.
Alors, on commence à y voir clair sur toutes ces notions. Donc, management, innovation managériale, et nous avons la transformation en elle-même. Comment est-ce qu'on peut la définir? Là, je vais me tourner vers Reynald Eckenbener et Jacqueline Girardin pour avoir vos éclairages à ce sujet.
Jacqueline?
J'allais te passer là, Reynald.
Oh, bah, j'y vais alors.
On se fait des politesses.
Merci. Okay. Alors, effectivement, comme l'a introduit Claude, si l'innovation managériale, à un moment donné, c'est une certaine volonté d'introduire un nouveau mode de fonctionnement qui finalement sera moins descendant, moins pyramidal par rapport à cette logique taylorienne et qui va donc encourager finalement les collaborateurs, les agents à prendre plus d'initiatives au service du projet de leur organisation. De mon point de vue, dans ce cas, la transformation managériale sera plus un cheminement et un travail personnel du manager lui-même sur sa propre posture et qui nécessitera de passer d'une logique de commande, contrôle, à plus une logique de facilitateur visant justement à faire émerger tout le potentiel des collaborateurs et des agents.
Alors, Jacqueline.
Je m'inscris dans ton pas, Reynald, en ajoutant quelque chose qui est pour moi très important, c'est que finalement, ce processus de transformation managériale, évidemment, il touche les managers. C'est une évidence, mais il replace plus globalement l'humain au cœur des organisations. Et j'entends par là avec quelque chose qui est absolument central, qui est une pierre angulaire, c'est la question de la bonne qualité relationnelle et de la confiance qu'on se fait. La confiance et l'estime qu'on se porte en vrai dans toutes les relations hiérarchiques et fonctionnelles d'une organisation. C'est aussi pour moi une vraie conquête d'autonomie à tous les niveaux et pour toutes les personnes qui sont impliquées dans les organisations. Et ça nécessite... Ce travail sur l'autonomie nécessite un repositionnement, un travail de fond sur comment on se positionne vis-à-vis des autres, dans l'organisation, dans ses visées, jusqu'où on y croit, comment on se sent de déployer à partir de soi, comment on se sent de déployer avec les autres ou pas forcément avec tous les autres. Un autre élément que je rajouterais, c'est vraiment la question de d'être en capacité de s'adapter avec une réalité qui est sans arrêt évolutive et contraignante.
Alors, et évidemment, tout ce que vous dites est valable dans tous les domaines, et en particulier dans les organisations publiques, dans les services publics. Vous vous doutez sûrement de la question suivante, quel lien peut-on faire entre cette innovation dont on a parlé et cette transformation? Là, je m'adresse un peu à tout le monde. Qui voudrait répondre en premier? Claude Guittard.
Oui, justement, je pense que le fait d'être dans une organisation publique, alors je suis bien placé pour savoir, parce que j'interviens effectivement à la fois comme chercheur sur ces questions et en même temps comme praticien, puisque la fac de Sciences Éco, c'est quand même quasiment un peu moins de 200 employés. En fait, on a la chance, c'est vraiment une chance, c'est que ces principes justement d'innovation managériale, de collaboratif, c'est toujours ambigu dans le monde de l'entreprise, parce que finalement, ça reste toujours tendu. Il y a des choses extrêmement compliquées. Il y a des besoins de performance financière. Et évidemment, dans la fonction publique, c'est différent. Il y a des besoins de performance, de rendre le meilleur service au public. Mais il y a moins cette compétition qu'on peut trouver dans l'entreprise. Il n'y a par exemple pas le risque d'être de faire quelque chose qui déplairait, parce que il y a un discours un petit peu parfois compliqué, c'est-à-dire voilà, on est dans le care, on est dans la solidarité entre les managers et les employés, mais au final, quand ça va mal, bah, on est obligé quand même de se séparer des employés, ce qui évidemment n'est pas le cas dans la fonction publique. Donc c'est un mode de management qui s'y applique particulièrement bien, à la rigueur mieux que le modèle tayloriste. Il y a une forme d'égalité qui se fait tout naturellement, et les collègues parlaient de l'importance de l'accompagnement et de la confiance, elle est fondamentale. On sait tout cela quand on fait du management public. En gros, si un agent ne veut pas nous suivre, il ne nous suit pas. Donc là, la confiance, elle est absolument nécessaire et on doit vraiment la créer. Encore plus que dans le privé, où là, il y a une sorte d'arme nucléaire qu'on ne va pas utiliser tous les 5 minutes, mais enfin, qui est sous-entendue dans toutes les relations, qui ne sont pas dans le public, en fait.
Nelly, par exemple, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Ça peut être intéressant de vous entendre.
Moi, ce que j'aime dans le mot transformation, c'est qu'il y a le mot forme, en fait. L'idée de donner forme à quelque chose d'autre, qui fait appel à notre imagination. Une imagination individuelle comme une imagination collective, qui va susciter justement le fait d'observer les choses et puis d'imaginer d'autres possibles. Qu'est-ce qui pourrait être possible? Parce qu'on parle de confiance, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que la confiance, ça, malheureusement, ça ne se décrète pas. Et c'est pas parce qu'on va décider que à partir de maintenant, on va se faire confiance, que le manager, on peut lui faire confiance, que tout le monde peut se faire confiance. Ça marche absolument pas comme ça. La confiance, c'est un pari. Soit on va faire confiance a priori aux gens et donc on va voir si la confiance va pouvoir tenir, soit elle va se construire petit à petit. Et justement, cette idée d'imaginer des possibles à l'intérieur d'une configuration managériale peut renforcer la confiance, parce que ça va renforcer aussi le dialogue et ça va permettre à tout le monde d'exprimer quelque chose autour des conceptions du management. C'est vrai qu'on a tendance parfois à appliquer des nouvelles formes qui peuvent être à la mode, qui peuvent être tendance, mais imaginer ensemble des possibles, c'est surtout ça qui va renforcer la confiance et qui va permettre de mieux se connaître aussi.
Cette notion de confiance est très importante, hein, d'après ce qu'on entend. Je pense que Jacqueline et Rénal pourraient nous compléter un peu peut-être cette notion de confiance.
Je m'inscris totalement dans ce qui se dit. La confiance est très clairement quelque chose qui se construit, qui se conquiert. Pas que dans les mots, parce que globalement, on a tous envie de se faire confiance et de coopérer. Dans la tête, tout ça, c'est tout à fait OK. Mais ça, c'est plus dans ce qui va empêcher dans les tripes et dans le cœur d'y aller franchement. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'absolument nécessaire dans ce travail, dans comment on peut construire la confiance, c'est d'aller oser visiter tout ce qui l'empêche. Une partie qui est assez politiquement incorrecte, ou assez tabou et qui est tu, c'est la question de à partir d'où on ne se fait plus confiance. Est-ce qu'il y a des défiances entre nous? Est-ce qu'il y a des partis pris, des biais de perception qui nous empêchent d'y aller franc du collier, soit avec telle ou telle personne, soit par rapport à l'objectif qu'on se donne? Est-ce qu'il y a des histoires, des historiques anciens qui n'ont pas été soldés ou assez soldés, qui empêchent de se mettre quelque part corps et âme avec tout son cerveau dans ce qu'on a à faire ensemble? Parce que ces histoires de management, de nouvelles formes de management, impliquent pour les parties prenantes de se coller à tous les états de la coopération. La coopération dans la partie très agréable, d'émulation, etc., ça va bien là-dessus. Du coup, on n'a pas besoin de créer beaucoup de confiance, ça va tout seul. Mais n'empêche que quand on doit innover, quand on doit faire preuve d'intelligence collective, il y a des états dans la coopération qui sont malaisés, qui nous mettent en tension, il y a des formes d'errance. Et ces étés-là, il faut être assez solide dans un collectif pour les traverser sans qu'on se mette à s'en protéger ou à se violenter les autres.
Je m'attarde juste quelques instants sur cette notion de confiance qui me semble importante. Reynald, vous qui êtes coach, du point de vue du coach et du formateur, la mise en œuvre de cette confiance, on parlait de la construction, la mise en œuvre, tout ça se rejoint. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que le vrai fond de la question à ce moment-là, par rapport à la confiance, consiste à se regarder et à regarder derrière ses croyances, derrière son prisme de valeur, derrière sa carte du monde. Souvent, la première barrière à la confiance, on sait qu'elle ne se décrète pas. Eh bien, c'est souvent cette carte du monde que j'essaye de projeter chez mes collaborateurs, chez mes agents, et qui finalement n'est pas la même. Donc, je vais être en doute et je vais pas être capable de lâcher prise par rapport à ça. Il y a des peurs, il y a des croyances, et ça va souvent être les premières barrières, effectivement.
Et Claude Guittard, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose aussi.
Oui, je pense que c'est très important, et d'un point de vue pratico-pratique, la confiance, ça a été évoqué et très justement dit par mes collègues, c'est un processus qui est long et qui demande d'aller loin, mais surtout, on n'a pas le droit une seule fois à l'erreur. Et donc ça, c'est très très important parce que par nature, on peut avoir tendance à se dire, ben quand on manage, on va passer en douce, on va essayer de passer en force, ça va pas se voir, etc. Ça, c'est évidemment ultra mortel. C'est une position qu'on peut jamais avoir. La confiance, c'est tout le temps. Et ce que je dis souvent, même à mes collègues, quand on travaille ensemble, la façon la plus efficace d'être rusé et stratège, c'est d'être absolument transparent. Donc la meilleure stratégie, le truc le plus tordu, c'est de finalement être parfaitement en transparence, parce que il faut dire les choses, parce que dès qu'il y a le moindre doute, c'est fini, et on est dans une société de la défiance, et on sait bien que c'est ce qui tue complètement notre société. C'est vraiment un problème énorme. Pourquoi? Parce que trop de fois on nous a fait des discours, il y a des magnifiques discours justement pour essayer d'habiller les choses, les effets du marketing. Il faut absolument pas faire du marketing managérial, parce que à court terme, ça fonctionne très très bien, mais à moyen terme, on le paye très très cher. Et encore plus dans la fonction publique, je pense que c'est particulièrement vrai.
Quelqu'un veut encore ajouter quelque chose à ce sujet, Jacqueline?
Oui, je me disais vraiment, pour enfoncer le clou, je crois qu'il y a une nécessité de parler vrai avec les équipes et dans l'équipe, déjà parce que ça soulage tout le monde et que ça évite de se faire des films pour parler de manière familière. Et aussi parce que il y a des moments où on sait, il y a des moments où on ne sait pas, il y a des moments où on ne sait pas encore, et que noyer le poisson, c'est évidemment autant de manières de rompre la confiance ou de la fragiliser.
Très important ça. Et avant de passer à la suite de notre débat, et je me tourne vers Marion. Est-ce que Marion, vous vouliez ajouter un mot sur cette notion de confiance?
Alors, pour la confiance, on a vu aussi que dans cette notion aussi de taylorisme, c'était le contrôle qui permettait alors de manager ses équipes. On contrôlait ses équipes et c'est par ces outils-là qu'on faisait ça. On voit aussi, ce qui est dû à la situation actuelle. On peut plus le faire. On peut plus rester assis à côté de nos salariés, voir à tout moment ce qu'ils font, combien d'heures de pause est-ce qu'ils font, On peut plus les contrôler de la même manière. Donc, la confiance dans cette approche-là aussi devient de plus en plus importante parce que ça remplace les modes de contrôle aujourd'hui. Le fait, est-ce que je peux, par exemple, faire du télétravail ou pas, pourra, par exemple, se définir par la façon, est-ce que mon manager et moi, on a une relation de confiance ou pas. Si on ne l'a pas, il va peut-être me dire non, vous ne pouvez pas le faire. Si, par contre, il a confiance en moi parce qu'on a réussi à le construire ensemble, dans ce cas-là, il va pouvoir dire « Ok, je te fais confiance, tu peux le faire ». Donc, ça se passe plus par le contrôle, mais par la confiance.
Merci beaucoup pour ces éléments de définition, de compréhension du sujet. On est déjà dans les leviers, c'est très important. On en vient maintenant aux enjeux de s'intéresser à ce sujet, voire carrément de s'y initier. Brièvement, quels sont ces enjeux pour se lancer dans le management, dans l'innovation managériale et dans cette transformation, selon vous? Qui veut commencer? Allez, Reynald.
Alors effectivement, on entend souvent parler d'enjeux sociétaux et à mon sens, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se déroule avec des signaux faibles qui ont émergé fin des années 60. Il y a une vraie remise en cause qu'on est en train de vivre du modèle patriarcal descendant, et toujours lié à cette logique taylorienne notamment. Et qui serait à mettre en lien avec une élévation du niveau de conscience. Moi, je le lirais plutôt comme ça. Forcément, il y a eu une accélération avec notamment la crise des subprimes en 2008 avec cette élévation du niveau de conscience. Je ne parle pas de la dernière crise sanitaire qui a remis un coup de projecteur sur le sujet. Donc forcément, Il y a une logique d'exercice du management, une logique d'exercice du pouvoir qui doit évoluer en conséquence. Donc tout l'enjeu, à mon sens, est là.
Alors, il y a donc un vrai changement sociétal aussi à l'origine de ces enjeux dont on peut avoir envie de s'emparer. Claude, Marion, vous qui travaillez sur ces notions-là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'action du changement sociétal sur la transformation managériale?
Bah, je pense qu'on l'a évoqué, hein, ce qui est vraiment de la société, on va peut-être le prendre par deux axes. Il y a un premier axe qui est la confiance, donc je ne vais pas revenir dessus. Ouais. On est vraiment dans une crise de confiance, et particulièrement en France. Faut quand même en être conscient. C'est vraiment une particularité, c'est assez inexplicable d'une certaine manière, et ça se traduit de plein de manières. Confiance à tout niveau, et donc ça, il faut qu'on apprenne et qu'on sache vivre avec. Un autre élément plus temporel, ce qui vient changer, je pense, radicalement toutes nos relations, que ce soit au travail ou dans la vie publique, c'est vraiment les nouvelles technologies. Parce que la façon justement de travailler ensemble, même de se faire confiance, alors c'est à la fois, ça vient tout percuter, parce que tout ce qu'on savait faire presque naturellement, et peut-être mieux ailleurs quand on était français, la sociabilisation à la française, et on le voit aujourd'hui avec les restaurants qui ferment, les cafés, etc., où ces choses se passaient là naturellement, on est un peuple qui vit comme ça et qui ont l'habitude de on est des latins pour le faire simple, alors que dans le numérique va créer des nouvelles formes de sociabilisation dont on n'est pas à l'aise, de refermement aussi sur soi. Hein. Je pense que et ça c'est vrai aussi bien pour la société et on en sent l'impact dans nos organisations. Ce qui est frappant avec le numérique, c'est que ça crée une nouvelle sociabilisation. Généralement, on avait une sociabilisation géographique, c'est-à-dire qu'on sociabilisait avec des gens qui étaient proches de nous ou dans l'entreprise, dans notre entourage, etc. Aujourd'hui, on peut avoir une sociabilisation qui est de plus en plus fréquente, particulièrement chez les plus jeunes, non plus parce qu'on est proche physiquement, mais parce qu'on est proche intellectuellement. Avec un risque extrêmement fort de ne parler qu'à des gens qui pensent comme nous et d'enfermement en permanence, d'où les théories complotistes, etc., avec des renforcements des croyances. Et ça, c'est vrai dans la société, et ça pose la question de la crise de la confiance, et c'est vrai aussi dans nos organisations où se créent en permanence des groupes en dehors de l'organisation où on va se renforcer les croyances, dire « ah oui, tu es vraiment méchant avec moi », ça fonctionne mal, on se crée des sous-complots. Ce qu'on voit dans la société massivement avec la crise du coronavirus et toutes ces choses-là, on les retrouve dans les organisations avec des créations de complots en permanence et des réenforcements de propres croyances souvent fausses.
Nelly Margoton, d'un point de vue philosophique, c'est intéressant de remettre tout ça en perspective, justement, en quoi ces changements au fil du temps nous ont amenés à provoquer ces enjeux-là auxquels on fait face.
Disons que la confiance, souvent, on croit qu'elle doit s'appuyer sur des certitudes. On a besoin de certitudes et c'est aussi pour ça que parfois le management est aussi rationnel, doit faire des prévisionnels précis pour qu'on envisage des scénarios qui nous rassurent parce qu'on doit s'appuyer sur des certitudes. Et justement, il n'y a rien de plus incertain que notre environnement et on l'a bien vu récemment. Et il n'y a rien de plus incertain non plus que le facteur humain. Le facteur humain est très imprévisible. Les humains entre eux ont des relations qu'on peut pas toujours anticiper et tout ça à différents points de vue. Donc c'est cette capacité aussi de se rendre compte que finalement l'incertitude fait partie d'une donnée essentielle du management et sans doute importante pour nous faire réfléchir à quelque chose de moins calculé, mais à inventer une autre forme d'intelligence managériale. Une intelligence qui est une intelligence de situation finalement, qui va essayer de comprendre ce qui se passe en s'appuyant notamment, moi je travaille beaucoup sur la question de la culture de l'organisation, entreprise, culture d'association, culture d'une organisation, qu'est-ce qui définit ses références, sur quoi elle se repose, qu'est-ce qui est son histoire, comment on travaille ensemble, qu'est-ce qui crée nos liens. Et justement l'intelligence, c'est la capacité de faire du lien entre les gens, entre les choses, entre les événements et les gens, etc. Et donc, essayer de s'appuyer aussi sur des références communes pour justement essayer de dépasser les prescriptions et s'appuyer davantage sur notre intuition et sur une capacité à faire face à la situation parce que la situation, elle est inédite et elle est unique. Ça permet peut-être aussi d'envisager un enjeu qui est intéressant, qui fait appel à l'intelligence humaine et un peu moins à la prescription, au référentiel et à quelque chose de trop calculé et rationnel. J'espère avoir été clair.
Oui, très clair. Jacqueline Girarda, d'un point de vue thérapie sociale, tous ces bouleversements, ces changements qui nous amènent à parler de tout ça aujourd'hui, ça donne du travail en thérapie sociale. Enfin, ça donne du travail à la thérapie sociale. la discipline.
Tout à fait, oui, oui. Tout ce que vous décrivez là comme crise met à mal le lien et met à mal nos besoins humains dans la coopération, qui sont irréductibles. On a besoin, je vais employer un mot un peu fort, de sentir aimé, on a besoin de se sentir apprécié au travail. Quand je le ramène dans le milieu professionnel, on a besoin de se sentir appartenir à une entité. On a besoin que ça fasse sens, ce qu'on fait là avec les gens qui nous entourent au boulot. On a besoin de le faire en sécurité. Et ces besoins-là, ils sont irréductibles. Quand ces besoins-là ne sont pas suffisamment satisfaits, et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est satisfait une fois pour toutes, on vit des choses au travail, les exigences arrivent, etc., les injonctions contradictoires, etc., arrivent, fait que ces besoins-là ne sont plus suffisamment satisfaits, en conséquence de quoi on va avoir des peurs, des craintes, des doutes, des soupçons dont on va essayer de se protéger, parce que c'est évidemment très désagréable à vivre. Et pour s'en protéger, en tout cas du point de vue de la thérapie sociale, on va soit être violent envers les autres, soit, et parfois en même temps, violent contre soi, au travers de formes de maltraitance, c'est-à-dire se pressuriser, si je le prends en tant que personne, se mettre plus la pression que nécessaire, c'est des formes de maltraitance qu'on peut aussi tourner vers les autres. Il peut y avoir des formes d'abandon aussi, où tout d'un coup, le collègue là-bas du bureau, que je vous parlais très vrai comme je l'entends dans mon travail quotidien, que je ne peux plus voir en peinture, eh ben, je vais faire mine de l'écouter, mais en fait, dans les faits, je vais me mettre le plus loin possible de moi. Dans une réunion collective, on sait qu'on a un point hyper important à défendre, et parce qu'on craint que ça soit finalement plus compliqué de le faire valoir que de se taire, eh ben, on va plutôt préférer se taire, et c'est une forme d'abandon de soi. Il peut y avoir des formes de culpabilisation des autres, de soi-même, c'est toujours pareil, et d'humiliation. Voilà, c'est ce mouvement-là qu'en thérapie sociale, on essaye de... On calme en répondant aux peurs, voilà, pour calmer les violences. Et ça, ça enlève les obstacles à la coopération. Les gens retrouvent leur bon sens, retrouvent leur capacité à coopérer, à être en désaccord avec quelque chose qui est absolument central, il me semble. Une autre pierre angulaire à nos histoires, c'est de réhabiliter le conflit dans ce qu'il a de plus noble, le désaccord et le conflit dans ce qu'il a de plus noble. Parce que c'est lui qui fait avancer, et c'est lui qui fait avancer en mettant les gens en lien franc et fort ensemble.
Mario, en conclusion de ce point, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Peut-être pour ajouter, alors je pense pour les enjeux sociétaux qui ont été déjà discutés, ça, ils ont tous été nommés. Ce qu'il faut toujours bien avoir en tête là-dessus, c'est que ce n'est pas seulement depuis lui, comme ça a été déjà dit, ça existe. Alors, ce changement dans la société,
la crise
ça
est un existe. Exemple, mais il y en a eu d'autres.
Oui, voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est juste pour bien poser ça aussi. Ça existe déjà. Alors, depuis au moins la dernière crise financière. Donc, ce n'est pas nouveau, et c'est pour ça aussi. Alors, c'est autant plus important de trouver des solutions aujourd'hui.
Alors, on parle évidemment de rapports entre les humains, de voire de conflits, de discussions, etc. Mais on peut se poser une question, finalement, c'est quelles sont les attentes des managers en réalité ? Parce que quel est réellement le besoin de gouvernance, de co-construction des décisions, d'apport de l'innovation ? Parce qu'il y a un peu un paradoxe, hein. On a envie, parfois on sent bien, on a envie de cadre, et puis parfois pas trop. Il y a un paradoxe comme de ce point de vue-là. Alors, quelles sont les attentes, à votre avis, à vos avis respectifs, des managers, voilà. Marion.
Moi, je crois qu'il y a... Ah, pardon, Marion.
Marion et après Jacqueline.
Parce que de toute façon, moi, ça me permet de rebondir sur ce que Jacqueline a dit tout à l'heure. Alors, les attentes de eux, finalement, on veut alors construire quelque chose ensemble avec les employés. Ça, on a dit tout à l'heure aussi, c'est ça le cadre qu'on veut poser. Donc, pour pouvoir innover ensemble avec eux, on a besoin des gens motivés. Donc, pour être créatif, il faut être motivé pour ça. Donc, le rôle du manager, c'est alors de susciter cette motivation et de pouvoir faire en sorte à ce que, extrinsèquement, la personne est capable de donner vraiment de son mieux. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que leurs nouvelles idées sont regardées avec suspicion et qu'on les prenne pas suffisamment bien en compte. Et finalement, selon une étude, elle a été faite aux États-Unis, qu'il y a seulement 17% des employés qui sont vraiment entièrement engagés dans leur activité. Et du coup, ce qu'il faut, le manager, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres, qui donne un processus, mais c'est quelqu'un qui coach pour permettre après, pour susciter cette motivation des salariés et pour créer une raison pourquoi le salarié doit exister. Donc, c'est cette notion de purpose, de raison pourquoi je travaille.
Jacqueline Gérardin.
Oui, je vois bien concrètement dans les collectivités, etc., que les managers, les gens qui ont les mains dans le moteur, ont une expertise qui est extrêmement forte, une expérience et des intuitions. Et qu'il y a un besoin de le faire valoir pour que ça tourne rond, pour que ça tourne plus rond. Et pour que, très concrètement, dans le quotidien de son travail, dans les faits, dans les actes, au plus concret, on arrive à raccrocher les wagons avec la notion de service public, qui des fois est une notion qu'on vit, qu'on veut, une visée, etc. Mais parfois, dans le quotidien du travail, il peut y avoir des tensions, des écartèlements, on ne s'y retrouve plus. Et je crois que la manière de raccrocher au plus concret et de retrouver ce sens-là, c'est de partir de l'expérience des premiers qui ont les mains dans le moteur. Et, mais pas que de la leur, aussi des managers et de toute la sphère, finalement.
Donc on part par là. Reynald, vous êtes d'accord avec ce concept ?
Effectivement, de mon point de vue, les gens aujourd'hui veulent être complètement associés aux décisions, prendre part. Je le relierai au fait que dans nos sociétés postmodernes, les besoins primaires, les besoins de sécurité sont globalement couverts. Alors, tout n'est pas rose, certes, mais globalement, c'est couvert. Donc, aujourd'hui, on va chercher autre chose. On est dans cette quête de sens. On veut appartenir, on veut se relier. Donc, forcément, on veut contribuer. Et on ne veut plus que des décisions bureaucratiques, sans être péjoratives sur le terme, nous soient imposées. On passe vraiment d'une logique pyramidale descendante à une logique de cercle collaboratif. On veut contribuer à quelque chose.
Ouais, on veut être utile et à bon escient et de manière pertinente. Claude, guitare.
Sur là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est très important tout ce qui a été dit. J'y souscris complètement, mais je voudrais rapporter non pas un bémol, mais simplement une autre perspective. Il faut faire aussi attention à quelque chose. Manager, c'est aussi décider. Et par exemple, le poids de la décision et ce qu'elle a d'insupportable, il faut pas la faire parce que évidemment, ce qu'on a envie, c'est généralement comme tout le monde, c'est humain. En tant que manager, on a envie de se garder les bons côtés et pas les mauvais. Et il y a un côté un peu Ponce Pilate souvent. Il y a un risque d'être Ponce Pilate en se disant, je vais demander aux gens de décider pour moi. Mais à un moment donné, les managers ont aussi besoin qu'on décide pour eux après qu'on les ait écoutés, après qu'on les ait consultés. Et ensuite, la décision, elle doit être assumée. Et le côté un peu désagréable, c'est bien au manager de le prendre et surtout pas de se défausser. Parce que là, justement, il y a une sorte, là, on revient sur la rupture de confiance. Parce que ça, je vois beaucoup dans mes organisations, tout le monde, ah non, mais moi, j'ai pas envie de décider, puis on repasse le bébé à l'eau du bain. Et encore une fois, surtout dans la fonction publique, c'est vraiment un truc assez classique qu'on a tendance à faire. C'est voilà, bah non, c'est pas moi, ou bien l'ordre revient pas, moi, vient d'en haut. Il faut assumer qu'à un moment donné, on est celui qui tranche après avoir écouté, après avoir relevé toutes les idées. Mais à un moment donné, on est payé pour trancher et les managers, ils attendent ça, qu'on les écoute. Mais et qu'on justifie notre décision, mais qu'on la prenne nous et qu'on n'attende pas d'eux de la prendre. Parce que clairement, c'est un truc qu'on sous-estime. Beaucoup de gens détestent décider. Ils adorent être consultés, mais détestent décider. Et c'est ça peut être d'ailleurs assez violent de le faire. Quand un catégorie C n'a pas envie de se prendre ce boulot, il n'est pas payé, il n'a pas envie de faire ça, et donc il ne faut pas lui demander de le faire. Il faut l'écouter, mais pas le laisser décider.
C'est toute la subtilité, Nelly Margoton.
Alors, moi, du coup, c'est difficile de parler après Claude, parce que je voulais revenir sur les questions de motivation et d'engagement, parce que la philosophie, elle a vraiment tendance à séparer un peu les mots et essayer de faire des distinctions terminologiques. Pour moi, l'engagement et la motivation, c'est pas la même chose, parce qu'on est motivé pour quelque chose, donc ça nécessite effectivement que extrinsèquement, on vienne apporter des raisons de se motiver, alors qu'on est engagé dans quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un projet, on est à l'intérieur et quelque part dans l'idée d'engagement, il y a l'idée d'obligation. On est dans on se sent obligé, on porte quelque chose. Et l'engagement, c'est comme la confiance, on va pas le décréter. Les personnes vont être engagées dans la mesure où effectivement elles auront eu à un moment donné une possibilité d'affirmer quelque chose ou de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. On individualise de plus en plus les relations de travail. On parle d'entretien professionnel, entretien personnel, conseil en évolution personnelle, etc. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour montrer aux salariés qu'effectivement, il peut choisir son parcours. Donc, s'il peut choisir son parcours, il peut peut-être aussi, s'il le souhaite, choisir le parcours de l'organisation et du coup, être engagé en ce sens-là parce qu'il se sera donné une obligation et il aura participé à quelque chose de commun.
Alors, je vois que nous accueillons un nouveau participant. Bonjour, je vous demanderai juste de bien vouloir couper la caméra et le micro si vous pouvez, s'il vous plaît, parce que ça prend la bande passante et ça génère de l'écho. Donc, merci beaucoup pour, pour ça. Voilà. Merci Nelly pour cette analyse. Alors, on comprend bien que du coup, changement managérial, transformation, mais on conserve aussi une certaine forme de cadre, d'équilibre entre les humains, entre les positions. Tout ça est un subtil mélange. On va faire une vue plus aérienne de tout ça. Quels sont, selon vous, les éléments issus de nos vies qui ont accompagné ce besoin de changement depuis maintenant des dizaines d'années, d'un point de vue purement sociologique, hein, soif de liberté, envie de famille, bien-être au travail, on en parle beaucoup. En quoi ces éléments ont accompagné cette transition, cette mutation? Qui veut répondre? Claude, guitare, allez.
Je peux me lancer, mais c'est évident que ça a beaucoup changé et la place et on revient un petit peu. Je pense que c'est quand même un peu la ligne conductrice, mais c'était le point de départ et c'est la façon dont on a construit les organisations pendant longtemps. C'était le taylorisme et les 30 glorieuses et on est tous partis de là avec un deal en gros. Votre travail est pénible, mais vous êtes bien payé. Aujourd'hui, en gros, et c'est particulièrement vrai dans la fonction publique, on n'est plus pas capable de bien vous payer, donc on va essayer de proposer autre chose. Et en même temps, c'est quelque chose que les gens attendent, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus simplement être bien payés. On le voit bien chez les jeunes et chez les étudiants, c'est flagrant. Évidemment, le salaire compte. Mais ce qui compte aussi, c'est la qualité au travail, la confiance, l'ambiance. Quand on voit, il y a beaucoup de métiers de la fonction publique qui aujourd'hui ont du mal à recruter, particulièrement dans l'enseignement. C'est bien sûr dû au salaire, ça fait aucun doute, mais c'est dû à autre chose. C'est dû justement parce que les gens l'oublient, hein, quand on travaille dans la fonction publique. On a la garantie de l'emploi, mais loin d'avoir la stabilité de l'emploi en termes géographiques, en tout cas dans la fonction publique nationale peut-être encore plus, puisqu'on peut être muté partout en permanence, c'est particulièrement vrai pour les profs. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre et que les gens n'acceptent plus. Donc notre société a changé, on veut plus, voilà, on sait que l'argent, on sait qu'on peut plus faire confiance, alors moins dans le public, mais dans le privé, dans le fait que l'entreprise va nous garder à vie, mais en contrepartie, on veut des bonnes conditions de travail, on veut surtout du respect, et c'est des éléments qui sont importants en général. Nos vies ont changé de ce point de vue-là.
Alors, qui veut compléter les propos de Claude, donc sur nos vies finalement, qui prennent aussi le pas sur nos métiers et inversement sur nos vies professionnelles. Claude a tout dit. On passe à la question suivante. Alors, selon vous, le rôle de l'innovation, on en revient à notre thème majeur, le rôle de l'innovation dans la transformation actuelle, est-ce qu'il est grandissant, ce rôle de l'innovation? Est-ce qu'il est exponentiel? Est-ce qu'il va crescendo? Alors, Reynald, Marion?
Alors, concernant l'innovation de manière générale, ce qu'on avait quand même vu, ce qui était le cas, genre, si on prend, on regarde l'évolution, alors, de l'économie, de manière générale, sur ces dernières 100 ans, à un moment, l'entreprise qui réussit le mieux, c'est celle qui réussit à produire le plus efficacement. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Après, on était l'entreprise qui réussit à lancer quelque chose sur le marché, qui réussit à faire quelque chose d'innovant, lancer ça sur le marché. C'est celle-là qui va réussir à s'imposer et à réussir sur le long terme. Or qu'aujourd'hui, pourquoi le rôle de l'innovation s'est devenu encore plus important? Maintenant, on est dans une économie qu'on pourra nommer économie de la créativité, où c'est l'entreprise qui pas seulement innove, mais qui innove de manière régulière. Et du coup, c'est elle qui va réussir à vraiment réussir sur le long terme. Donc finalement, on utilise souvent aussi aussi dans les recherches que nos collègues font aussi dans notre laboratoire, le terme de routinisation de la créativité, ce qui semble un peu contradictoire, mais qui exprime alors cette idée de régulièrement lancer quelque chose. On est régulièrement dans ce changement et c'est quelque chose qui finalement, comme vous avez dit aussi, qui s'accélère et qui sera nécessaire pour vraiment pouvoir survivre à long terme.
Nécessaire. Claude Guittard, vous partagez cette vision. Quels éléments pourraient identifier les sources d'innovation qui contribuent à ce mouvement?
Alors évidemment, il y a une nouvelle technologie, mais juste pour répondre, pour compléter ce que disait Marion, plus que répondre, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec elle, mais il faut quand même faire très très attention avec ça, parce que cette recours à l'innovation, alors elle est nécessaire, surtout dans le privé, dans l'industrie, pour suivre, créer de nouveaux marchés. Mais il faut faire attention parce qu'elle est aussi la première source de stress. On a parlé de stress et de manque de confiance. Cette volonté d'aller toujours en avant, il faut faire très attention de pas faire un management qui consisterait à se dire on va stresser les gens comme ça, ils seront plus efficaces, en voulant pousser l'innovation pour elle-même. Donc ça, c'est important. Mais pour revenir sur l'innovation et peut-être ce qui est vraiment plus important, mais je l'avais déjà évoqué, c'est l'importance des outils numériques et à quel point ils viennent percuter notre façon de travailler. en modifiant en permanence les choses, mais les outils, et là, ce soir, je pense que c'en est la preuve, numérique, c'est aussi un bon moyen de mieux collaborer. Donc, la frontière est vraiment fine, et il faut pas les utiliser juste pour le plaisir, il faut jamais que l'innovation soit gratuite. Il faut bien comprendre que le changement organisationnel a un coût financier, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus ce soir, un coût humain gigantesque. C'est compliqué pour un humain de changer, c'est dur de changer pour un humain. Donc il faut pas en abuser, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas ne pas changer, parce qu'on a besoin de s'adapter. Mais il faut surtout pas en abuser, ne pas en faire une méthode de management. Concentrer à changer de façon gratuite, un peu comme les shadow pompes. Et parfois, c'est ce qu'on rencontre dans le management, quoi.
Il faut rester un peu latin et en même temps être ouvert aux nouvelles technologies. Hein. C'est un mix des deux. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon pour ça. Moi, j'ai une question sur un autre élément qui s'invite aussi dans la danse, malheureusement, en ce moment, et qui, sans mauvais jeu de mots, nous colle à la peau, c'est cette crise sanitaire. Selon vous, en quoi a-t-elle eu un rôle sur cette évolution? Est-ce qu'elle a accéléré un management plus transverse, ou est-ce qu'elle est simplement venue perturber l'approche de cette transformation? Je passe la parole à Reynald en premier, puis je pense que tout le monde va pouvoir s'exprimer sur ce point, parce que malheureusement, on est en plein dedans.
Alors effectivement, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, pour moi, les premiers signaux faibles sont les années 60. Au fur et à mesure, effectivement, l'élévation des niveaux de conscience arrive. Année 2008, crise des subprimes, premier vrai choc et première prise de conscience. On a tous les phénomènes d'entreprises libérées qui commencent à émerger. Et aujourd'hui, la crise sanitaire a été pour moi un révélateur à plus grande échelle. Et un révélateur qui nous a fait peut-être, pour certains, sortir de notre zone de confort. Je le vis à travers mon propre métier de formateur. Pour moi, au 1er janvier dernier, c'était impossible de dématérialiser sur Zoom une formation de 3 jours en management. Par la force des choses, j'ai été obligé de le faire. Donc, comme disait Claude, l'humain n'aime pas changer. Changer ma pratique, non, c'était pas évident pour moi. J'ai dû le faire. Mais forcément, je suis passé par une zone d'inconfort total. Aujourd'hui, je reviendrai pas en arrière. Donc, j'y suis passé. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus peut-être un accélérateur ou un focus à un moment donné. Mais pas une révolution totale. Le mainstream, comme on dit, reste résolument encore sur l'économie.
Alors, Nelly, est-ce que je peux vous passer la parole juste pour avoir un éclairage philosophique sur ce qui se passe en ce moment?
Justement, la philosophie, elle essaye toujours de prendre un maximum de recul, de pas trop s'exprimer trop rapidement. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une révélation très forte de notre vulnérabilité, finalement, de notre fragilité. Et puis de la fragilité et de la vulnérabilité de nos modèles, hein, donc ce retour à l'acceptation de l'incertitude, comme je le disais. Alors il y a beaucoup d'injonctions à la résilience, d'appels à rebondir avec tout un tas de méthodes qui seraient faciles à utiliser finalement pour rebondir. Je sais pas. La résilience, elle suppose aussi peut-être pas seulement de cette capacité à se remettre des choses et à être accompagné, mais peut-être aussi l'idée de comprendre que la vie, elle est tragique, elle est compliquée et qu'il faut peut-être l'accepter à un moment donné, que les choses ne se passent jamais comme prévu et que du coup, il y a des choses qui dépendent de nous et puis des choses qui ne dépendent pas de nous. Et dans ce qui dépend de nous, qu'est-ce qu'on peut modifier? Voilà. Et quand je parle de fragilité de nos modèles, c'est se poser la question aussi pour ceux qui en ont envie, parce que tout le monde n'a pas forcément ce besoin et cette envie de qu'est-ce qui vient de ma responsabilité, qu'est-ce que je peux modifier. Donc peut-être que ça peut bouger un petit peu l'envie des gens de faire autre chose. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de la part d'organisations ou même de pouvoirs publics qui ont essayé de faciliter les liens entre les acteurs qui luttaient contre la pandémie, qui luttaient pour aider à guérir le plus de malades possible. Donc on voit que on sait faire face dans l'urgence, que des gens sont capables de se mobiliser. Et donc c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire tout n'est pas prescrit, tout n'est pas calculable. On est capable à un moment donné de s'inventer. Et comment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire perdurer ça aussi, sortir des prescriptions et encourager l'intuition, encourager aussi des moments, en tout cas, pour inventer des solutions. Voilà, ça peut paraître idéal, mais si j'avais plus de temps, j'aurais l'occasion d'en reparler après, je pense.
Donc, est-ce qu'on en retire plus de transversalité pour vous tous à travers cette crise ou pas?
Moi, j'en suis pas certaine. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas tant un accélérateur, parce que ça sous-tend qu'il faut se saisir de ce qui se passe, et ça, c'est pas du tout mécanique. Ça, c'est au point le plus minimal un révélateur. C'est-à-dire que dans les organisations, mais aussi dans les entreprises privées, finalement, on se retrouve le nez collé au mur de ce qui ne fonctionne pas, avec un perte d'opérationnalité très claire derrière et de viabilité, avec toute l'inertie que ça reprend de redémarrer, etc. Et ce que ça révèle, c'est qu'il y a un moment donné, avec toute cette partie dématérialisée, tout ce distanciel, dès lors que les relations ne sont pas suffisamment établies et sécurisantes et solides, on n'arrive plus à faire le travail qu'on a à faire ensemble ou de manière tellement détériorée que ça ne va plus. Donc ça, c'est le côté, le nez collé au mur. Après, il faut s'en saisir. On ne peut pas. Ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de mécanique au fait de... Ce n'est pas mécanique qu'on se saisisse de ça dans les organisations.
Claude.
Donc, en fait, ouais, tout ce qui a été dit me paraît très, très juste. Et pour essayer de le mettre peut-être un petit peu ensemble... tous les éléments qu'on vient de voir, c'est que moi je fais des cours de gestion du changement et souvent on nous conseille de faire des changements qui seraient préparés, voilà, c'est le modèle un peu anglo-saxon. Encore une fois, sans vouloir faire la psychologie des peuples à deux francs, enfin moi il me semble que ça marche pas bien sur les Français. Nous, notre caractéristique, c'est qu'on est assez bon, on n'est pas bon pour prévoir les trucs, mais quand ça va vraiment mal, on sait se faire mal et s'adapter. On l'a pas assez souligné, mais la France est un des pays, si ce n'est le pays qui a mieux suivi le premier confinement, et assez loin en termes de discipline collective. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est pas un changement. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Ça nous arrive dessus, on n'est pas prêt, etc. Évidemment, on fait des choses collectivement mal, mais on est capable de s'adapter. Et surtout, moi, je vois au niveau des outils, c'est pas simplement une évolution. Alors c'est un révélateur, et ça, c'est très très juste. De tout ce qui va pas et de tous les problèmes de confiance, parce que là, tout d'un coup, c'est clair. Un élément qui est évident, c'est sur le télétravail. On est un des pays au monde qui a le moins accepté le télétravail parce qu'on n'a pas confiance. Et ça, c'est un vrai révélateur. Et c'est un énorme problème. Pourquoi, entre autres, on se prend une deuxième vague? C'est parce qu'on nous a dit, faites du télétravail si vous pouvez. Et en fait, personne pouvait. Pourquoi on pouvait pas? Parce que les entreprises n'avaient pas confiance. Et moi, le premier dans mon organisation, la première chose que je dis, on ne va pas faire de télétravail parce qu'on ne se fait pas confiance. Et donc ça, c'est révélateur. Un autre point, et j'aimerais quand même, par rapport à l'effet, est-ce que c'est simplement une évolution ou est-ce que les choses seront plus jamais comme avant? C'est à la fois, c'est les deux. Et je pense que vraiment, ça sera plus jamais comme avant. Pour moi, d'un point de vue innovation, on se comprend bien, c'est comme une guerre. C'est-à-dire que c'est un accélérateur. Évidemment, il faut que les technologies soient là avant. On va pas inventer le char de combat si on n'a pas inventé le moteur à explosion avant. Il y a des choses comme ça. Mais par contre, on n'aurait probablement jamais inventé le char de combat ou la bombe atomique si on n'avait pas été dans des guerres mondiales à chaque fois. Tout d'un coup, tout devient possible. Prenez des outils comme Zoom. Zoom a sorti une version tous les mois ces derniers temps pour améliorer sa sécurité, etc. Alors que c'est un truc qui existait depuis longtemps et qui végétait. Et là, tout d'un coup, tout devient possible, tout s'accélère. Et on reviendra pas en arrière. Reynald a parlé de ses expériences. On s'est rendu compte qu'on était capable de faire des formations en ligne. On s'est rendu compte qu'on était capable de manager des équipes en ligne alors qu'on pensait que c'était pas possible. Et ça ne l'était pas avant. C'est ça qui est incroyable. C'est pas juste, on s'en est rendu compte, c'est pas juste un révélateur. Ça l'était pas parce qu'on n'était pas dans le niveau de stress. Parce que c'était pas obligé de le faire. Donc, tous collectivement, on n'apprenait pas ensemble, on se disait, ah, ça va aller, on va se retrouver ensemble autour d'une vraie réunion, ça va être plus simple. Parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. Et là, on s'est rendu compte qu'on était capable de le faire, et les outils eux-mêmes s'améliorent. Et ça, c'est définitif. Alors, ça n'a pas changé radicalement la société. Bien sûr qu'il y a une trajectoire. Ça ne vient pas de nulle part. S'il n'y avait pas Internet, évidemment qu'on n'aurait pas fait cela. C'est arrivé au bon moment aussi en termes de maturité des outils. C'est une évidence. Mais je pense que c'est un effet cliquet. Ça ne va pas changer radicalement la société. Mais si vous voulez, c'est comme une balle, ça va lui changer sa trajectoire, et de façon définitive, pas de façon radicale, elle ne va pas partir dans l'autre sens, mais ça va lui changer un peu, et définitivement, une évolution lente n'aurait pas produit la même chose. Très clairement, on n'aurait pas inventé la bombe atomique doucement. Il fallait l'inventer dans un moment de crise. Et là, on a plus rien, lié particulièrement aux nouvelles technologies, lié au télétravail, probablement qui, en plus, pour le coup, c'est une bonne idée pour d'autres crises à venir, je pense à la crise écologique. Le fait d'avoir peut-être moins à se déplacer. Souvent, on se disait, oui, il faut faire du télétravail pour moins polluer. Ben là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est possible. Et donc, ça, c'est peut-être, entre guillemets, les bonnes nouvelles.
Marion, Neukam.
Oui, ce que je voudrais rajouter à ça aussi, effectivement, on peut tourner ça aussi de manière positive. Finalement, la crise sanitaire, on pourrait aussi la considérer comme, finalement, un chouette expériment. Parce qu'on n'a pas le choix. On est dans cette configuration tout d'un coup. On pourrait presque, si on voudrait le modéliser, on pourrait pas faire mieux. dire à une entreprise, maintenant, vos salariés restent chez vous, débrouillez-vous et regardez ce que ça donne. Pourquoi c'est aussi chouette? C'est quand on parle alors de l'innovation managériale, souvent le danger derrière, c'est quand une entreprise ou quelqu'un se lance là-dedans, on veut changer quelque chose, et après 2-3 mois, on remarque peut-être, oui, c'est quand même difficile, parce que finalement, l'innovation managériale, c'est pas juste un processus écrit sur un papier, c'est un changement de valeur, il faut changer sa façon de faire, il faut changer plein de choses. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que juste modifier quelques cas sur un papier qui décrive à peu près le processus organisationnel. Donc, c'est plus difficile. Et très souvent, on s'engage dans une innovation managériale, mais on n'y va pas jusqu'au bout parce qu'on se rend compte, non, c'est quand même fatigant, faisons comme avant. Sauf que maintenant, eh ben, on avait le premier confinement. Après le premier confinement, on voyait certaines réactions où les gens sont revenus, où ils ont essayé à revenir un peu en arrière en disant « Non, maintenant, on revient déjà de nouveau tous sur place. » Eh ben, il y a le deuxième confinement. Donc, on n'a pas de nouveau pas le choix. Alors, c'est une deuxième boucle maintenant. Et alors, on a de nouveau pas le choix. Il faut y aller. Il faut se transformer. Donc, finalement, c'est aussi quelque chose de positif où on, voilà, on va devoir le faire. On n'a pas le choix. Et du coup, pour l'innovation managériale, ça va permettre aussi de le faire, de faire perdurer les apprentissages dans le temps. De toute façon, comme Claude a dit aussi, on a pendant ces mois-là, on a fait tellement d'apprentissages qui étaient coûteux, on a investi dans les logiciels, on a investi dans l'apprentissage humain, les gens qui se sont habitués à ça. Ne pas l'utiliser à l'avenir, ça n'a pas de sens économique tout simplement, parce qu'on a investi là-dedans. Du coup, maintenant, on voit alors, continuons dans cette voie, il y a certaines choses qui vont rester et ça n'a pas de sens de revenir en arrière économiquement tout simplement aussi déjà.
Bon, alors avant de dévoiler des clés, des outils pour mettre en œuvre tout ça, j'aimerais vous entendre rapidement sur les pratiques aujourd'hui qui cohabitent entre les anciennes modalités et les nouvelles modalités de management dans les organisations publiques. On en est où ?
Tu veux juste pour bien parler, tu peux dire par rapport à la crise ou par rapport de façon plus générale ?
Non, aujourd'hui, de manière générale, une fois la crise déjà arrivée, évidemment, puisqu'on est quand même fin 2020, tenant compte de tout ça et des décennies précédentes, on en est où maintenant dans les modalités de pratique du management, donc les anciennes, les nouvelles, et notamment dans les territoires publics ?
Je pense vraiment, c'est ce qu'on a dit en fil rouge depuis le début. C'est compliqué parce que pas mal de notre grammaire managériale, c'est encore l'ancien monde, pour faire simple. On a ça, c'est même la façon dont on considère ce qu'est un bon manager. Un bon manager, c'est celui qui va faire changer les choses, etc. Et donc, changer peut-être de façon un peu violente. Voilà, il y a des choses qui viennent du monde d'avant et qui sont fondamentales. Mais ce qui est intéressant, c'est pas uniquement du côté des managers, c'est aussi du côté des managers qui attendent encore cela. Je veux dire, même d'un point de vue politique, ce qu'on attend d'un président de la République, parce que c'est finalement le manager en chef absolu, c'est à la fois un nouveau roi et en même temps quelqu'un qui serait dans le collaboratif. C'est compliqué, c'est quasiment impossible. Donc on passe notre temps à leur couper la tête à chaque élection, parce que où il est trop normal. Ou il est trop jupitérien, ou il est trop normal, ou il est trop jupitérien. On va pas s'en sortir comme ça. Donc, c'est compliqué de trouver le bon degré à tout niveau dans les organisations. Et il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait, enfin, on parlera des recettes tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il y ait de recettes évidentes, mais.
On y vient justement. Reynald, un mot là-dessus quand même avant qu'on passe à la suite.
Oui, effectivement, je suis très très fréquemment confronté à cette dualité ou ce choc au sein des différentes organisations. Il y a une vraie prise de conscience de toute façon que la logique du manager sachant qui dirige et décide seul, aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Le monde est devenu complexe. Nelly en a parlé tout à l'heure. La décision du lundi, le vendredi, elle est de toute façon plus applicable. L'histoire de la chloroquine nous a montré qu'il n'y avait aucune certitude, qu'il fallait avancer avec le peu d'informations qu'on avait. Donc, des compétences comme organiser, décider, animer, contrôler, petit à petit laisse la place à d'autres types de compétences comme accompagner, faciliter, faire confiance, écouter, questionner. On passe d'une expertise technique à une expertise du lien. Donc les compétences d'intelligence émotionnelle et tout ce qui est soft skill prennent aujourd'hui toute l'importance. Alors j'aime bien cette notion de grammaire. Effectivement, comme le disait Claude, elle est plus du tout adaptée à ce qui est en train de se passer. Par rapport à ça, un changement de posture managériale ne va pas pouvoir se décréter. On peut pas se lever le lundi et dire en comité de direction, messieurs, dames, pour vendredi, je veux qu'on change de posture. C'est pas possible, ça ne se décrète pas. On touche à un système de représentation, un système du monde, un système de croyances qui est mixé parce que tout le monde n'évolue pas à la même rapidité dans ses prises de conscience, Donc il y a un travail. Il y a un travail sur soi, il y a un travail de fond, à mon sens, qui est nécessaire.
Jacqueline, en quelques mots.
En quelques mots, je pense que là, on regarde du côté des managers, mais je pense que du côté des managers aussi, il y a des formes de croyances sur des anciennes grammaires qui viseraient à décrédibiliser ce que c'est l'autorité. L'autorité, elle a une part tout à fait noble et absolument nécessaire, qui est celle d'exiger quand il le faut, qui est celle de cadrer quand il le faut, qui doit contrôler à certains moments. Et il y a vraiment un enjeu aussi à pas croire hors sol que être un bon manager, du coup, dans le nouveau monde, c'est être dépouillé de la capacité à faire autorité avec un A majuscule, parce que les collectifs en ont besoin.
Nelly, au niveau de l'autorité, ça doit vous inspirer des choses philosophiquement?
Ça m'inspire des choses. En fait, l'autorité, elle est indispensable. Mais souvent, ce qui est rejeté, c'est l'autorité non légitime. Il y a une différence entre la légitimité de l'autorité et l'illégitimité. La légitimité, en fait, elle est dans le regard de ceux qui sont managés, pas dans la tête de celui qui manage, en fait. Et qu'est-ce qui va donner de la légitimité? C'est, comme j'aime bien jouer avec les mots, je veux dire que c'est la justesse plutôt que la justice. Un manager qui aura tendance à être un peu moralisateur, à dire ce qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est juste et c'est bon et c'est voilà. Il n'aura pas du tout la même légitimité que quelqu'un qui sera plutôt dans la justesse. Et la justesse, c'est la question du courage, c'est la question de la capacité à faire face à la situation et d'être suffisamment ouvert. Et finalement, confondre justesse et justice, ça conduit effectivement à des malentendus. Et la capacité à être juste dans le sens justesse, c'est de faire face. Et donc, c'est aussi être capable de faire corps avec une situation, de dépasser les prescriptions, d'inventer quand il le faut, d'écouter, de faire appel à d'autres idées, et puis de trancher, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Et là, l'autorité, elle peut être conçue comme légitime. Mais à partir du moment où elle n'est pas, parce que les personnes veulent nous dicter des chemins, c'est plus compliqué. Voilà.
Bon, alors concrètement, avant de passer à la dernière partie de cette émission, avant de passer à la dernière partie ou avec les questions-réponses, concrètement, comment pratiquer cette transformation managériale innovante en lien avec les attentes du service public à l'échelle d'une collectivité et d'une équipe? Allez, je passe la parole à Reynald et puis on écoutera Jacqueline aussi sur ce point.
Alors effectivement, quand on intervient au sein d'une organisation quelle qu'elle soit et d'une collectivité, souvent le travail se fait de la même façon, en tout cas en ce qui me concerne. On commence avec l'équipe par définir la raison d'être, ou en tout cas pourquoi on est ensemble et au service de quoi. Et à mon sens, je les invite à dépasser le simple « servir l'usager ». Aujourd'hui, on n'en est plus là, ça doit aller un petit peu plus loin. On travaille ensuite sur toute la dynamique d'équipe pour définir ce projet commun et comment l'organisation souhaite y aller. Alors bien évidemment, il y a la mise en place de pratiques collaboratives, mais au-delà des pratiques collaboratives, c'est surtout comment le manager va pouvoir animer ces pratiques collaboratives. Et c'est là qu'un vrai travail de fond, souvent en individuel, va être mis en place. Cet accompagnement du manager sur sa posture, sur le changement de posture pour développer plus des compétences de facilitateur, sera mis en place. Donc voilà, on a un vrai travail sur soi à faire, un vrai travail par rapport à sa logique de pouvoir, à sa logique d'ego. Faut pas avoir peur de le dire. Je suis souvent confronté à des managers qui ont peur de lâcher par rapport justement à cette croyance que un manager doit être bon, doit tout le temps décider. C'est un homme, une femme, et il a des vulnérabilités. Et en acceptant aussi ses vulnérabilités, il va être beaucoup plus authentique pour lâcher prise.
Alors Jacqueline, en termes de thérapie sociale, là on a un vrai sujet pour le coup.
Ouais, c'est vraiment pour le coup la manière de travailler qu'on déploie en intervention en thérapie sociale, c'est d'aller regarder l'inconfort, justement, parce que ça nous informe. Alors il faut des cas très sécurisants pour faire ça, qui permettent de parler vrai, d'oser se montrer, etc., sans craindre pour soi. Et parce que ça nous informe sur les besoins qu'il faut nourrir pour y arriver ensemble. Et d'aller regarder aussi au plus concret des relations entre les personnes, l'écart qui existe entre le prescrit ou la visée, ce qui nous meut, et puis tout ce qui nous en empêche, tous les endroits où on va décrocher, on n'y croit plus vraiment ou plus assez pour se retrousser les manches ensemble. Ce qui implique dans cette même dynamique-là de permettre un cadre de travail où la confiance augmente plus on avance. Et plus cette confiance-là augmente, plus on se sent faire équipe, plus on se sent étoffé, plus on se remplume collectivement pour aller regarder ces choses-là.
Et puis on peut tenter de nouvelles expériences, de nouvelles pratiques, de nouvelles postures Quels sont les facteurs et les vecteurs de succès dans cette évolution ? Là, Jacqueline, vous venez d'en évoquer certains. Vous en voyez d'autres pour faciliter cette transformation ?
Moi, je vous le disais tout à l'heure, mais je pense qu'il est absolument nécessaire. Il y a quelque chose de l'authenticité à conquérir, quoi.
Claude,
pense que ça, c'est un vrai facteur de réussite et ça ne nous tombe pas dessus. Je voulais réagir tout à l'heure à ce que disait Denis, c'est-à-dire que être un bon manager, déjà, c'est très précieux en ce moment, et ça ne nous tombe pas dessus, c'est des choses qui se travaillent. Quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a pas de stress, il ne faut pas dramatiser le truc. C'est quelque chose qui se travaille, ce n'est pas acquis comme ça.
Claude Guittard.
Ouais, moi, je pense que ce qui y a un mot quand même qui me paraît fondamental. Et puis encore une fois, c'est là-dessus qui c'est la chose la plus compliquée, et particulièrement dans les entreprises publiques. D'une certaine manière, on a un avantage là-dessus par rapport au privé. Ce qui est fondamental, il me semble, pour un bon management, et c'est vraiment ce qui est sorti de toutes les interventions, c'est la confiance. Et c'est pas juste la confiance manager et manager, c'est la confiance entre tout le monde. Et la confiance, elle se crée en se socialisant. Je vois dans le chat des remarques sur le fait que c'est difficile de faire de la confiance en ligne. C'est certain. Comme il est difficile de faire de la confiance dans des lieux formalisés, il est très important, et ça va contre tout ce qu'on nous dit, par exemple sur le lean management, ou je sais pas si vous êtes familier avec ces concepts où il doit y avoir rien qui dépasse, etc. Pas une oreille, mais le risque de cela, il est fondamental, c'est qu'il ne se crée plus de lieu de socialisation où se crée de la confiance. Il ne s'agit pas forcément simplement de faire du team building, pourquoi pas aller faire un week-end de team building, mais plus concrètement, simplement dans la vie de tous les jours, une bonne vieille machine à café, les gens qui se parlent. Les gens qui échangent et qui se parlent d'autre chose que du travail, parce qu'on va se faire confiance après, parce qu'on sait, parce qu'on va se créer des liens plus forts. Et la confiance, je le dis souvent en rigolant, la meilleure façon de se faire confiance, c'est quand on a quelque chose à partager. Et typiquement, alors c'est un truc qu'il faut pas dire, mais pour se faire confiance, il faut dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est pas très élégant, c'est pas très beau, mais il y a que comme ça que ça marche. C'est-à-dire que parce que ça, c'est un secret partagé. On va oser dire du mal de quelqu'un d'autre que si on a confiance en l'autre, parce que sinon il va aller le répéter comme dans une cour de récré. Et quand on peut mesurer la confiance, c'est quand on est capable de dire des choses comme ça. Déjà parce que ça fait du bien, j'imagine. Je suis pas psychologue. Il y en a qui sont là, qui sont plus que moi, mais ça fait du bien de dire voilà, lui il m'énerve. Enfin, quand je dis du mal, c'est pas dire lui il m'énerve. En ce moment, il est insupportable, etc. Et pouvoir dire ça à quelqu'un d'autre, ben c'est dire qu'on se fait confiance. Et quand dans une organisation, on est capable de se dire les choses entre nous et de se faire confiance justement, ben, je pense que c'est fondamental. Et pour ça. Le rôle du manager, c'est un facilitateur. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Von Krug, qui dit qu'un manager, c'est un jardinier. C'est pas nous qui faisons pousser les plantes, c'est pas à nous d'aller faire le travail des gens, c'est à nous de donner les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est la confiance. Et donc, laisser du temps pour que se créent des interactions sociales, pour se créer la confiance. Et je, pour répondre, on en parlera plutôt tout à l'heure, c'est possible en ligne. Mais il faut imaginer qu'une réunion en ligne n'a pas vocation à être forcément que efficace. On peut aussi s'appeler juste pour dire comment tu vas, comment vont les petits, se parler d'autres choses. Et c'est des choses qu'on n'ose pas faire en ligne et qu'on fait en présentiel. Si on fait en ligne, ça peut marcher.
Donc le point de vigilance là-dedans, finalement, c'est de faire attention à ne pas s'improviser comme ça brutalement manager et éventuellement mettre en place une nouvelle pratique et de prendre en compte le contexte très très global. J'ai bien compris que c'était un point de vigilance. Il y a aussi donc le paradoxe entre la recherche d'autorité et le rejet de celle-ci. Donc en fait, on marche un peu sur des œufs entre guillemets sur ce terrain-là. Est-ce que vous pensez que le télétravail massif qui a été mis en place pendant la crise sanitaire a pu aider à cette confiance, a pu aider à créer un climat numérique, a pu aider à tout ça, ou au contraire c'est venu parasiter, Reynald?
On a eu les deux. On a eu le manager qui a remis en place un surcontrôle en télétravail, et clairement, c'est voué à l'échec. Ça a plus fait de mal qu'autre chose, à mon sens. Dans ce que j'ai pu voir, j'ai encore animé une formation il y a deux jours sur le sujet. Et puis, on a eu le même phénomène que j'ai pu vivre en termes de formation, à savoir la sortie express de sa zone de confort, où là, on se retrouve à devoir changer ses pratiques par la force et à se dire « Ah ben tiens, finalement, ça fonctionne en lâchant prise et en faisant confiance ». Et souvent, cette prise de conscience-là, elle est puissante.
Bon, Nelly, j'ai une question à vous poser. D'un point de vue philosophique, comment la philo peut accompagner la mise en pratique de la transformation managériale? Alors là, en prenant vraiment de la hauteur de vue.
Et en se basant peut-être sur la confiance pour faire le lien avec tout ce qui a été dit. Parce que la confiance, je vais encore vous embêter avec le latin, mais c'est cum fidere, c'est croire ensemble. Donc, c'est croire en les mêmes choses. Et pour qu'on croit en les mêmes choses, Il s'agit peut-être de les clarifier. Et la philosophie, elle vient là aussi pour renforcer le dialogue, permettre à tout le monde de s'écouter, puis de redéfinir les mots qu'on utilise ensemble. Parce que c'est pas toujours si simple, et souvent, on n'a pas la même perception juste des mots qu'on utilise ensemble, juste des projets qu'on utilise ensemble. Et ça, déjà, ça peut nuire à la confiance, puisque si on doit croire aux mêmes choses, on doit aussi s'entendre sur ce à quoi on croit. Donc, essayer aussi d'apprendre à se poser les mêmes questions, mais pas d'apporter tous les mêmes réponses. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord quand Jacqueline explique le conflit qui doit être assumé, la possibilité aussi d'être capable d'entendre d'autres points de vue, d'assumer le fait qu'on ait des idées qui soient différentes et à un moment donné qu'on va prendre une décision. Voilà, donc s'appuyer aussi sur la culture de l'organisation, comprendre ce qui fait les références chez nous, qu'est-ce qui est possible habituellement chez nous, qu'est-ce qui habituellement n'est pas possible. Là, on entend souvent « Ah non, mais chez nous, ça on fait pas. Chez nous, c'est pas possible, comme on l'a fait avec le télétravail. » Et pourtant, il y a bien des choses qui doivent être rendues possibles parce que l'environnement change, parce qu'il y a des demandes particulières, parce que les attentes des citoyens changent. Donc, il faut rendre des choses possibles. Et pour ça, il faut croire ensemble que c'est possible et travailler ensemble à tout ça. Donc, la confiance, ne pas oublier que c'est l'idée qu'on croit ensemble aux mêmes choses. Et donc, il faut travailler sur cette idée de croire ensemble aux mêmes choses. Et ça nécessite vraiment un dialogue et un manager qui sait dialoguer ou qui se fait sur cette dimension-là.
Le management aujourd'hui, c'est une véritable activité, hein, c'est plus une simple fonction. Est-ce que aussi dans le point de départ, il ne faut pas d'abord s'interroger sur pourquoi je veux devenir manager, quel sens je donne à ça, plutôt que de se dire je suis manager ou je vais être manager parce que je vais prendre un galon. Comment se comporter par rapport à cette notion, Claude Guittard?
Non mais c'est un truc qui alors là pour le coup qui revient à l'ancien vraiment au taylorisme. C'est l'idée que être manager, c'est une sorte de comme un bâton maréchal. J'ai fait un truc bien, donc on va alors que c'est un autre métier en fait. C'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on fait un bon manager. Et ça, c'est un énorme classique. C'est voilà, on prend et on met tout le monde en zone d'inconfort. Le gars qui était super bon, qui est un super technicien, un super ingénieur, on le met à se manager alors qu'il sait pas faire, qu'il fait mal. Du coup, on perd un bon ingénieur et on récupère un mauvais manager. Et ça, c'est vraiment un classique de toutes les organisations. Dans la tête de tout le monde, être un manager, c'est une récompense. Alors qu'en fait, c'est enfin, alors ça c'est rigolo parce que chez nous, je parle ici dans l'enseignement supérieur, on est élu doyen, etc. Et en fait, c'est un peu comme les maires, personne n'a envie de l'être, hein. Parce qu'en fait, on se rend bien compte à quel point c'est chiant parce que grosso modo, on a rien à gagner là, le salaire est à peine supérieur et que très temporairement. Donc finalement, personne n'a envie de l'être parce que c'est très compliqué. Mais dans les organisations, tout le monde a envie d'être manager parce que le salaire est meilleur. Et peut-être qu'un jour, il faudrait décorréler les salaires de cette responsabilité-là, parce que un bon ingénieur, un bon technicien devrait peut-être être mieux payé que certains managers selon ce qu'on manage, en fait, concrètement. Parce que du coup, tout le monde veut être manager et il n'a pas la fibre, ce qu'expliquait Bruno à l'instant, c'est que il faut avoir la fibre. Et surtout, c'est ça, je m'en rends vraiment compte, parce que chez nous, on est un peu des managers par défaut. Beaucoup de collègues ne veulent pas trancher. C'est insupportable de décider après avoir écouté, etc. Mais encore une fois, le fait de décider, le prendre des décisions, c'est quelque chose de difficile et que les managers n'aiment pas faire. En fait, enfin, rarement ils aiment faire. C'est ça qui sont des mauvais managers.
Donc en conclusion, on se prépare bien à cette activité-là et pas seulement pour le titre, mais la fonction.
Exactement.
Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. On pourrait rester des heures comme ça, vous écouter, à échanger, à discuter, mais on a aussi beaucoup de participants qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont beaucoup de questions. Et Aurélie, donc, du côté du fil de conversation, comment ça se passe?
Ça se passe très bien. Il y a eu pas mal de réactions lors de vos échanges. Là, je rebondis simplement sur ce que vient d'écrire Pascal qui dit finalement que manager, c'est croire aux mêmes choses, mais aussi les vivre. Alors du coup, pêle-mêle, en essayant de faire une synthèse.
Alors, est-ce qu'une première question se détache?
Alors, une première question, c'était Nathalie qui l'avait posée au début, qui disait, pour autant, les relations managériales publiques, pour rebondir sur la confiance dont vous parliez plus tôt. Donc, les relations managériales publiques restent encore très pyramidales, donc où la confiance et la reconnaissance ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc finalement, comment convaincre manager et élu du besoin de transparence?
Alors, qui veut répondre à cette question?
Je crois que c'est en invitant à... Moi, je raccorde beaucoup à du bon sens, je suis presque un peu paysanne, mais quand on est manager, quand on est cadre, quand on est élu, eh ben, finalement, on affiche vraiment les mêmes besoins que les managers. et que raccorder à ce qui nous manque, à nos positions différentes, ça crée de l'empathie pour la situation des managers, ça crée un mouvement, ça crée un allant, il me semble en tout cas.
Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question.
Juste pour bien connaître le système. De facto, dans la fonction publique, c'est ultra pyramidal avec les catégories A, les catégories B, les catégories C, avec tous les problèmes que ça pose, les difficultés. Moi, ce qui m'avait fait sourire quand j'avais vu cette remarque dans le chat, c'est sur les élus. C'est sûr, pour être aussi d'une certaine manière un élu, parce qu'encore une fois, doyen, on est élu. Alors, sauf que chez nous, on se bat pas pour l'être. Encore que maire, je pense qu'on se bat de moins en moins aussi. Mais les élus sont prêts dans une logique assez différente. Je pense que pour eux, c'est particulièrement compliqué. Parce que pour être élu, on n'est pas du tout dans la même relation avec ses administrés, même par rapport à sa stratégie, même par rapport à tout dire. Pour être élu, il faut surtout pas tout dire. Alors que pour manager, moi, il me semble qu'il faut vraiment dire les choses, quitte à aller dans le conflit. Hein, c'est ce qu'on a vu avec Jacqueline, et on l'a vu à plusieurs personnes l'ont souligné. Et donc, c'est vraiment différent de l'élu. Et donc, je pense que pour l'élu, ça doit être vraiment très, très compliqué. Et puis, quant à l'aspect pyramidal, encore une fois, il y a un truc qui nous sauve. Enfin, moi, c'est un truc que je dis et qui est absolument vrai. C'est que, les amis, vous pouvez vraiment vous révolter. C'est bien pour ça aussi que le statut de la fonction publique existe. Hein. Je vous rappelle qu'il a été créé après Vichy, quoi, pour justement qu'on puisse se révolter d'un ordre indigne. Donc, on est dans une situation presque assez simple, même si c'est pyramidal. S'ils sont pas contents, ils peuvent le dire. OK, ils risquent un blâme, qu'on leur râle dessus, mais ils risquent pas leur poste. Donc, c'est quand même une sécurité qui devrait permettre la confiance. Il faut leur rappeler.
Bon. Je crois que, pour rebondir sur ce que tu dis, je crois qu'on est dans un système où des valeurs de loyauté sont vraiment très fortes. Et ce système de valeurs-là, nous, on le voit beaucoup en coaching, en commençant à mettre des doutes dans des certitudes, on peut faire émerger des prises de conscience qui peuvent faire travailler sur un cheminement vers un autre système de fonctionnement. Mais c'est de questionner, voilà, c'est se questionner sur cette notion de loyauté et en quoi remettre en cause, une décision hiérarchique, c'est remettre en cause ma loyauté.
Aurélie, une autre question du côté du chat?
Alors oui, il y avait Bruno qui disait c'était au moment où vous échangiez sur le changement d'approche en fait du manager. Et donc Bruno disait, mais finalement, au-delà de la posture du manager, ce dernier évolue dans une organisation avec des périmètres, avec un niveau hiérarchique, la gouvernance des instances, les formats de prise de décision. Et ne faut-il pas finalement agir sur l'intelligence à l'échelle de l'organisation et pas non seulement à l'échelle du manager?
C'est ce que Claude essayait d'expliquer tout à l'heure, en créant un climat de confiance général et global. Hein, on en revient à ça. Qui veut prendre la parole?
Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que quand on est un cadre intermédiaire, on n'est pas forcément en position de le faire. Donc ça, c'est on peut pas. Autant on peut agir en dessous de nous, mais on peut pas forcément agir au-dessus. Donc ça, je sais pas.
Ouais, donc c'est un changement collectif en fait, et de fond, et en profondeur, et avec du temps.
Mais je pense qu'on a des initiatives aujourd'hui. Il y a beaucoup de collectivités qui vont sur des structures dites libérées, de plus en plus, dans lesquelles, dans les retours que je peux en avoir et qui peuvent se trouver, c'est plutôt positif. Mais ça, c'est souvent quand va y avoir un élu ou un DG qui va avoir ce niveau de conscience de dire, je me regarde dans mon travail sur moi, dans mon ego, dans ma logique, et je lâche prise. Je vais être force d'initiation et derrière le schéma va se mettre en place. Donc c'est pas figé.
Aurélie, est-ce qu'on a une autre? J'imagine on a plein des questions, mais est-ce qu'on a identifié la question suivante?
Oui, beaucoup de questions. Alors il y a Valérie qui demandait si finalement dans ce mouvement de transformation managériale, le manager ne devenait-il pas plus responsable?
Ah, ça c'est intéressant. Reynald.
C'est le but, mon capitaine. C'est le but de libérer, justement, de se sentir responsable, de se sentir autonome et de prendre part. Alors, responsable, ça dépend ce qu'on va y mettre derrière, mais en tout cas, responsable de sa vie, responsable de ses décisions pour impulser le changement au sein de l'organisation, au service des usagers.
Et est-ce que c'est ce sens de la responsabilité qui peut justement amener la confiance chez les managers et du coup enclencher un mouvement global?
Vous savez, on est quand même dans un système éducatif qui vise pas spécialement à rendre les gens responsables. Et il y a un conditionnement d'une trentaine d'années sur le sujet. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, ne pas avoir peur de prendre des responsabilités, c'est pas évident. Et ça se fait dans un cadre de protection, de permission et d'accompagnement.
Alors, il y a la thérapie sociale et la philosophie qui vont nous répondre aussi sur le sujet. Nelly, Margot, d'abord.
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je veux pas que nos propos, ils laissent croire que tout le monde a envie de participer, tout le monde a envie d'être responsable, tout le monde a envie de décider. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, il y a des gens qui se sentent pas capables de ça, ou peut-être qu'ils le sont pas. L'idée de responsabiliser les gens, c'est pas seulement l'idée de prendre des initiatives ou de prendre la parole, c'est pas que ça, c'est aussi l'idée de bien faire son travail et se poser la question de savoir faire son travail, au-delà de participer au changement, de participer à la transformation, de donner des idées. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même rapport à notre travail et certains ne voient pas leur travail comme quelque chose qui va les accomplir et dans lequel ils doivent absolument participer de manière complètement engagée. Mais par contre, responsabiliser face à la question du travail bien fait, c'est quoi être professionnel finalement dans nos métiers? Je crois que c'est aussi une question importante qu'on peut se poser tous à nos niveaux en fait. Voilà, je laisse la parole à Jacqueline.
Oui, Jacqueline.
Oui, j'ajoute simplement à ça que dans le panier, pour moi, il y a aussi la question de la place de l'erreur, la place à l'erreur, le fait de pouvoir se montrer faillible et de laisser tomber l'idée qu'on doit être, alors je parle des managers, d'autorité parfaite. Ça n'existe pas et c'est contre-productif.
Accepter sa vulnérabilité.
Moi, juste pour revenir, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nelly. Hein. Il faut qu'on fasse vraiment très attention à cela. Généralement, tout le monde autour de cette table, on aime bien avoir des responsabilités, sinon on serait probablement pas là à suivre un séminaire ou à le faire à 19h du soir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pas quelque chose qu'on peut exiger de quelqu'un. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'a dit aussi Jacqueline, hein, c'est l'importance d'être responsable de leur travail, peut-être aussi du service public. Parce que je pense qu'on peut jouer là-dessus. C'est un mot qui doit pas être tabou. C'est un joli mot. Je pense qu'on peut en être fier quand même. Voilà, on sert le public. C'est un truc qui a quand même de la gueule. Donc à défaut, de donner des responsabilités, de décider, d'avoir un impact sup les autres, on n'a pas forcément envie d'en faire des heures sup. Mais mon travail, je le fais bien. Pas parce que je veux gagner de l'argent. Du coup, et on revient sur la confiance et c'est plus facile à travailler. On travaille pas pour des actionnaires. On travaille pour le public. Donc d'une certaine façon, c'est presque pour une fois plus facile de créer cette confiance.
Merci Claude. Aurélie, encore quelques. Jacqueline voulait ajouter un dernier mot et on va passer à la question suivante.
Oui, promis, dernier. Même quand on est au travail pour des questions alimentaires, même si c'est ça qui est légitime dans le fait qu'on soit au boulot, c'est tout à fait suffisant pour être responsable et pour faire les choses de manière collective et juste.
Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Aurélie, encore quelques questions, deux, trois questions maximum, et puis on va devoir conclure.
J'allais dire, je vous propose un challenge au vu du temps. Est-ce qu'on peut envisager de faire quatre questions en quatre minutes, soit une minute par question? Attention, top chrono. Et vous avez vu, j'ai même pas attendu que vous ayez répondu. Alors,
première question.
Ça, c'est ma manière de manager. Voilà, pas de réponse, on y va.
Alors finalement, quelle est cette première question, Aurélie?
Oui, j'y viens. Alors Nathalie dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire des managers qui veulent pas travailler en collaboration?
Alors, Marion, une idée là-dessus? Nelly est inspirée. Allons-y, Nelly.
J'ai une question, j'ai une réponse toute bête, c'est leur demander pourquoi, essayer de comprendre pourquoi en fait, parce qu'il y a peut-être des raisons à tout ça. Et il n'y a pas d'obligation à travailler de manière collaborative. Donc, juste leur demander pourquoi.
Un mot, non, alors Jacqueline est d'accord, Rénald aussi, tout le monde acquiesce. Alors, question suivante, on va peut-être tenir le challenge, j'aurais dit des questions en 4 minutes.
Je suis en confiance. Alors, tous les salariés peuvent-ils être créatifs?
Claude.
Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et je pense que c'est là-dessus, c'est vraiment le travers dans lequel on ne doit pas tomber. Le but, c'est que l'organisation soit créative. Tous les salariés n'ont pas vocation à être créatifs, tout le monde n'a pas envie de l'être, et puis tout le monde ne peut pas l'être. Il faut aussi faire de la place à des gens qui ne sont pas créatifs, qui n'ont pas. Et encore une fois, ça revient pour moi à la question d'avant sur la responsabilité. Il faut être responsable, mais pas, on ne peut pas demander à chacun d'être créatif. En plus, la créativité, ça ne se décrète vraiment pas. Donc c'est l'organisation qui doit l'être et sûrement pas les individus.
Bon. Alors, Jacqueline va ajouter quelques mots.
Et simplement, il faut que ça fonctionne. Je veux dire, au-delà de la créativité, il faut que ça fonctionne.
Voilà, c'est tout. C'est clair. Alors, troisième question, Aurélie, on est très bien parti sur ce challenge.
Absolument, je n'en doutais aucunement. Philippe qui demandait, mais est-ce que le management à distance dans le public est-il une source d'innovation? Le management à distance.
C'est intéressant comme question, Nelly.
Tout peut être source d'innovation à partir du moment où on s'accorde des moments de réflexivité, en fait. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas bien marché? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Et là, ça peut devenir une source d'innovation. Accorder aussi des moments de retour sur expérience, peut-être, soi-même et les autres, comment ils l'ont vécu.
Et pour compléter ce que dit Nelly, et ça avait été dit, je ne sais plus si c'est Jacqueline ou Rénal, mais sur le fait que c'est un révélateur, cette crise. Et la distance, c'est un vrai révélateur. Tout d'un coup, les choses qui peuvent passer un peu crème, comme on dit dans le langage court en moderne, là, tout se voit, tout est évident, tous les manques de conscience sont évidents. Tous les faits qu'on s'appelle pas et qu'on règle pas, tous les problèmes deviennent plus importants. C'est un peu comme il paraît dans l'espace où tout est plus compliqué. Et ben, c'est pareil à distance. Tout est plus compliqué. Donc, ça révèle tout. Donc, en sens, c'est source d'innovation parce que c'est un révélateur.
Parfait. Et la quatrième et dernière question, Aurélie, qui va clore un peu la marche.
Et oui, et c'est une question de Pascal qui dit que tout dire peut aussi être générateur de crainte. Et finalement, le manager ne doit-il pas préserver ses collaborateurs pour mieux faire émerger leur créativité? Alors là, je vois Claude qui dit non depuis le début de la question.
Là, on n'est pas entre les anciennes pratiques et les nouvelles par hasard.
Non. C'est plus dans sa capacité à savoir dire les choses et à accepter ses faiblesses, ses vulnérabilités et se regarder par rapport à l'ego managérial. Voilà, donc plus des techniques de communication, à mon sens.
Moi, je pense que vraiment, si on veut se créer la confiance, il faut vraiment alors tout dire. Mais tout dire, ça ne veut pas dire le dire n'importe quand. Ça, c'est un point qui est important aussi. C'est pas dire, ah, comme au milieu de la... Alors là, pour le coup, numérique est violent. Alors là, c'est un conseil de base, si on devait donner un conseil de base, ne jamais communiquer quelque chose de complexe par mail. Parce que c'est ce qu'on a envie de faire, parce qu'on n'a pas l'autre en face, on n'a pas peur. Et c'est la pire des choses, parce qu'on ne sait pas comment, dans quel état d'esprit est celui qui va le recevoir. Et parce que, évidemment, nous, on se débarrasse du truc et on communique par mail. Donc, tout dire, c'est pas dire n'importe quand, dans n'importe quelle n'importe quel instant. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait aucun secret. À la rigueur, on peut éventuellement mentir par omission, ne pas dire quelque chose. Mais si on nous demande, on le dit et on l'exprime. Et on exprime, effectivement, s'il y a des faiblesses. Mais c'est vraiment très important de pas compter sur le fait que ça va pas se voir, parce que il y a un éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais, et c'est ce qu'il y a de pire pour créer la confiance. Donc il faut, à mon avis, vraiment tout se dire, mais au bon moment.
Il faut pas se cacher derrière son petit clavier, quoi.
Ouais, c'est ça, surtout pas. Alors ça c'est mortel.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Si j'essaie de résumer notre sujet du jour, hein, très 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 grossièrement, d'un point de vue managérial, on est dans une transformation perpétuelle, et ça, c'est pas nouveau, puis a priori, c'est pas terminé. Un mouvement permanent qui requiert, eh bien, agilité, adaptation, avec l'innovation aussi qui est parmi nous et qui est pas prêt de partir. Du coup, comment on fait dans les prochaines années en termes de transformation managériale, selon vous, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans? On a besoin de s'acculturer encore plus à tout ça et c'est ça qui va nous faire gagner du terrain et progresser.
Le but est dans le chemin.
C'est ça. Pour le dire autrement, à mon avis, il y a surtout pas. Enfin, on s'était posé un peu la question des techniques. Il y a pas de technique. C'est Jacqueline, je crois, qui parlait de bon sens. Alors moi, je me méfie un peu du bon sens parce que le bon sens me dit que la Terre est plate et elle l'est pas. Mais malgré tout, je pense que ce qu'il faut absolument sur quoi on doit travailler, c'est comme l'a dit aussi Rénal à l'instant, c'est sur un état d'esprit. De toute façon, on a besoin d'être agile, essayer de comprendre les choses. Et je pense que c'est fondamentalement ça et qu'on aura de plus en plus besoin. Et finalement, je suis même pas sûr que dans l'approche taylorienne, les bons managers n'étaient pas déjà des gens qui écoutaient les choses et étaient capables de faire. Peut-être que d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau. Mais en tout cas, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il n'y a surtout pas de recette. Et que c'est simplement dans l'écoute. Et puis, mais en gardant cette capacité de trancher, comme on a dit tout à l'heure. J'ai vu d'ailleurs dans les questions, quelqu'un a dit trancher, c'est pas très funky. Mais si, à la fin, hein, il faut bien trancher. On n'a pas le choix. Il faut décider. Hein. Il faut prendre des décisions. Une décision, ça fâche.
Trancher, c'est séparer, donc c'est faire la différence entre les choses. Ça permet de clarifier.
Ça peut aussi être positif. Bon, Marion, Jacqueline, Reynald, pour le mot de la fin.
Je pense que tout est dit. Alors, les mots clés ont été évoqués. Alors, est-ce qu'on parle de confiance, transparence, authenticité aussi pour le manager? Je pense que tout ça c'est vraiment les mots clés qu'il faudra pour l'avenir et auxquels il faut essayer à se tenir, parce que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on détecte qu'un discours qui se veut qui est donné est pas authentique, et du coup après on risque que mon équipe ou les gens avec lesquels je travaille se trouvent contre moi, et ça serait surtout le contraire de ce qu'on veut avoir. Donc l'authenticité, transparence, confiance.
Allez, Rénal et Jacqueline, chacun un mot de la fin.
L'authenticité, c'est accepter ses vulnérabilités de manager.
Jacqueline, la lourde tâche vous revient de conclure ce webinaire.
Oui, j'ai une grande pression là, je vous avoue.
La thérapie sociale en même temps, thérapie sociale, voilà.
Oui, j'ai envie de dire prendre soin du lien, ça c'est une évidence, et puis pas s'oublier dans la balance, chacun là où on est. Prendre soin de soi, savoir s'apporter ce qu'il nous faut pour sentir légitime là où on est et se déployer.
Bon, eh bien, un grand merci. Et puis, évidemment, tout le monde doit prendre soin de soi. On retient aussi ça. Un grand merci à vous toutes et tous. Nelly Margoton, philosophe d'entreprise. Jacqueline Gérarda, spécialiste intervenante en thérapie sociale. Marion Neukam, maître de conférence en management de l'innovation à la Faculté des sciences économiques et gestion de Strasbourg. Reynald Eckenbenner, formateur et coach spécialisé dans l'accompagnement à la transformation organisationnelle. Et puis Claude Guittard, maître de conférence et doyen de la Faculté de sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Merci aussi au CNFPT et puis à Aurélie Barre pour la coordination de ce webinaire et l'animation du fil de conversation. On a réussi notre challenge, c'est super. Et bien sûr, merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pourrez retrouver cette émission, ce webinaire sur Fréquence T, la web radio des agents territoriaux, qui à l'occasion de ce mois de l'innovation propose également un cycle d'émissions consacré à cette thématique. À très bientôt, merci à tout le monde.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir tout le monde, bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.